Pour trouver un hypothétique traducteur, ne sachant pas que c'était mon compère Lionel qui traduisait l'autre débat, donc j'étais à l'accueil en train de dire « Mais on n'a pas de traducteur pour aider James Borough à nous parler en français. » Voilà, donc je vous présente les personnes présentes sur le plateau. Donc tout d'abord Pierre Bordage, qui est l'écrivain local de science-fiction, qui est quand même un écrivain de grand talent, dont on dit en général qu'on ne présente pas, ben on va le présenter pour une fois. C'est donc un écrivain plutôt spécialisé dans la science-fiction, qui est un adepte des gros livres passionnants, d'aventures. Enfin, moi, je trouve ça toujours très intéressant ce qu'il fait, qui est en train d'achever sa dernière série, la Fraternité du Panka. Nous avons le plaisir de compter également parmi nous Gérard Klein, qui, lui, est un de nos directeurs de collection mythique, tellement il a fait pour la science-fiction en France depuis de très, très, très nombreuses années, principalement à travers la collection Ailleurs et Demain, mais il y a également ses préfaces et beaucoup d'autres travaux. Et puis, nous avons aussi la grande chance d'avoir parmi nous James Morrow, que je me plais à appeler l'homme le plus intelligent du monde, ce qui le fait rougir à chaque fois. Qui est un écrivain américain de grand talent et qui écrit des livres absolument merveilleux de profondeur et d'intelligence également. Et la traduction est donc assurée par Lionel Davoust, qui est un excellent traducteur, un joyeux compagnon et un écrivain dont je vous recommande les romans, puisqu'il est aussi en dédicace ici. Un homme à tout faire. Bon, bah, c'est fini. Nous sommes réunis en ces lieux, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, pour nous demander, pour nous poser la question toujours autour du thème de l'histoire, des rapports de l'histoire et des littératures de l'imaginaire. L'histoire a-t-elle été écrite par les religions ? Donc, la question est de savoir si les religions ne sont qu'affaires individuelles ou si elles ont affaire à de plus grands groupes, à des histoires de société, et comment elles le font, pourquoi elles le font, et si la science-fiction, le fantastique, la fantasy ne jouerait pas par hasard un peu au chat et à la souris avec ces notions-là, voire avec les religions elles-mêmes. J'aurais tendance à avoir envie de lancer sur cette première question Pierre Bordage, qui a énormément de choses à dire sur les religions en général. Enfin, tout le monde à cette table a énormément de choses à dire sur les religions, hein. Et je penche pour Pierre Bordage tout particulièrement, eu égard aussi à la série L'Enjeu mineur, bon, qui est un petit peu notre histoire à nous les gens d'ici, les guerres de Vendée, et puis la religion qui joue un rôle majeur à cette époque-là, avec le côté un petit peu historique des choses, et puis évidemment tout ce que tu dis toujours sur les religions dans tous tes livres. Alors... la religion et l'histoire.
La religion et l'histoire. Il se trouve que je suis vendéen, donc catholique.
Tu as même fait le petit séminaire.
J'ai fait le petit séminaire, donc j'étais assez proche de la religion. Enfin, j'étais bercé dans la religion en quelque sorte. Tout ça parce que quand j'étais petit, j'avais des sortes d'élans mystiques qui m'ont fait confondre l'aspiration spirituelle et la religion, mais c'est une confusion qui est très classique. Mon premier livre d'histoire, finalement, c'est la Bible, en parlant de l'histoire et la religion. On va être obligé de parler de ce qu'on connaît, donc de la religion, des religions du livre. Et la Bible est à la fois un récit historique, puisque c'est l'histoire d'un peuple, et un récit mythique et religieux. Voilà, j'ai été bercé là-dedans depuis tout le temps. J'ai étudié un petit peu. J'ai vraiment lu la Bible, moi, comme un roman d'aventure. Regroupait tous les thèmes de la science-fiction, parce que c'est la création, la destruction via l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Donc c'était le début et la fin des temps, c'est toute une épopée. Et oui, évidemment, dans notre religion à nous, dans les religions du livre dont nous sommes issus, évidemment, l'histoire se confond avec la religion, puisque nous avons comme seule trace historique, finalement, outre l'archéologie, on a la Bible, tout ça. Hein. Et donc, on peut considérer qu'effectivement, là, l'histoire a été réécrite par une religion particulière, qui est celle du judaïsme. Et après, je me suis interrogé sur le système des religions. Je me suis rendu compte qu'effectivement, les religions, c'était tout sauf de la spiritualité. C'est-à-dire, c'était juste des... l'histoire est écrite par les vainqueurs, par des religions dominantes, donc des systèmes de pensée. Des systèmes de pensée qui visaient à transformer chaque être en parfait petit soldat de la foi. C'est-à-dire, le faire adhérer à un système de croyance, à un système de pensée. Et après, moi, tout mon travail, ça a été, puis ce que je fais aussi dans mes romans, c'est essayer de décoller ou de distinguer, disons, l'aspiration spirituelle, qui, je pense, est propre à l'être humain, mais ça, c'est personnel, hein, enfin, propre à moi en tout cas, je ne suis pas tous les êtres humains, et de décoller cette aspiration spirituelle qui me semble être un moteur fondamental de la religion, qui est une sorte de récupération politico-sociale de cet élan fondamental, et qui devient un système de pensée qui est extrêmement enfermant. C'est-à-dire que c'est, pour moi, la religion, enfin, telle que je l'ai vécue et telle que j'essaie de le vivre encore, c'est tout sauf une libération. Ce que devrait être une religion, c'est un emprisonnement. Voilà. Donc, après, tout mon travail, ça a été d'essayer de distinguer. Je pense qu'un auteur, c'est quelqu'un qui va vers la liberté intérieure, donc justement, on en parlait hier avec Jodorowsky, c'est en essayant d'échapper à tout système de pensée déjà établi. Et c'est plutôt l'essence de mon travail, c'est d'aller vers cette liberté intérieure qui, pour moi, est la véritable essence de la spiritualité.
D'ailleurs, la religion est omniprésente dans tes romans.
Oui, je m'en sers pour démontrer ce que peut être un pouvoir coercitif mis en place. Et on n'a jamais aussi bien tué qu'au nom de Dieu. Hein, je veux dire, au nom de Dieu, on est capable de faire absolument n'importe quoi et tout, et son contraire. Donc, c'est pour moi un élément. On voit, à un moment, on a dit Dieu est mort, etc., Nietzsche et tout ça. Dieu n'est pas, non seulement Dieu n'est pas mort dans sa version religieuse, mais je pense qu'il est de plus en plus présent sur notre monde. Les enjeux sont... J'ai écrit ça dans L'Ange de l'Abîme, hein, c'est-à-dire après l'11 septembre, je suis allé au bout de cette logique qui voulait que ce soit une logique d'affrontement d'une religion contre une autre. Je pense que les religions, en tant que système de pensée, sont de vrais dangers potentiels.
Je sens que Gérard Klein a des choses à dire.
Oui, ça m'arrive par accident.
Justement, les accidents se produisent majoritairement ici, donc tout va bien.
Les religions sont des êtres très, très étranges. Et on comprend, j'essaierai d'en dire quelques mots après, qu'ils aient intéressé beaucoup d'auteurs de science-fiction. D'abord, les religions sont des sujets collectifs. Je dirais même que ce sont pratiquement dans leur immense variété, les seuls sujets qu'on puisse qualifier de sujets et d'authentiquement collectifs. Ensuite, les religions ont à peu près toutes un projet, celui de transformer l'humain pour le ramener dans leur cadre à un modèle idéal. En troisième lieu, les religions, qu'on qualifie souvent peut-être un peu trop rapidement d'institutions, sont les institutions les plus pérennes que l'humanité connaisse. La plupart des grandes religions actuelles ont millénaires, ce qui n'est pas le cas des institutions politiques. Aucun empire, aucun État n'a subsisté aussi longtemps. Et enfin, dans toutes les religions que je connais, le pouvoir ne s'y transmet pas de façon héréditaire. L'Église catholique a même poussé probablement le bouchon assez loin en introduisant le célibat, pas tout de suite dans son histoire, mais le célibat des prêtres, et en rendant impossible, à quelques possibles exceptions près, en rendant impossible la transmission d'un pouvoir héréditaire, ce qui les différencie radicalement des institutions politiques. Alors, dans la science-fiction, ces différents caractères ont été diversement utilisés. Bon, c'est difficile de refaire ici tout un historique, mais enfin, un des tomes de la grande anthologie de la science-fiction du livre de poche, qui est malheureusement difficile à trouver aujourd'hui, s'appelle Histoire divine et est entièrement consacré, enfin partiellement aux religions et pour le reste à des thématiques divines. Et un auteur qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est Frank Herbert qui imagine dans Dune un cas de figure très particulier, la missionaria protectiva, qui est utilisée par l'ordre féminin du Bene Gesserit afin de protéger ses envoyés sur différentes planètes. C'est un cas de figure très particulier puisque c'est une religion qui a été construite dès le départ comme une escroquerie, comme une tromperie, mais qui a des effets tout à fait réels et qui aura l'effet tout à fait réel de protéger Jessica et Paul Muad'Dib qui va devenir le prophète de Dune. Donc, alors, il y a pas mal d'autres textes enfin, où les religions interviennent, mais j'en aurai pour 5 ou 6 heures dans mon cours abrégé, donc je m'en tiendrai là.
On va passer la parole à James Morrow, dont mon petit doigt me dit, parce que je connais bien ces thématiques, qu'il aurait beaucoup de choses à dire sur la question. Puis quand on écrit des romans comme En remorquant Jéhovah, la trilogie, L'apprentie du philosophe et le dernier chasseur de sorcières. Mais enfin, je cède la parole à James parce que je l'ai vu prendre des notes, donc je sais qu'il a déjà des choses à dire.
Merci. Bonjour à tous.
Et je vous préviens, il parle très bien le français aussi.
Je parle seulement un peu de français. Donc, merci à Lionel. I'll begin with a quotation from Nehru of India.
Je vais commencer par une citation de Nehru en Inde.
Which is used as the epigraph to the novel by Arthur C. Clarke called The Fountains of Paradise.
Qui est l'épigraphe du roman d'Arthur C. Clarke, Les Fontaines du Paradis.
Nehru said, "Politics and religion are dead. What we need are, in the future, is science and spirituality," comme Pierre Bordage.
Et donc cette citation dit, la politique et la religion sont mortes. Ce dont nous avons besoin dans l'avenir, c'est de science et de spiritualité, ce qui se rattache à ce que disait Pierre.
The best example I can think of, offhand, of the phenomenon of religion, or the religious impulse, or institutional faith, rewriting history, is what happened with the ministry of Jesus Christ.
Et le meilleur exemple de ce phénomène, ce dont nous, nous, nous parlions, l'étincelle, l'impulsion religieuse versus la foi institutionnalisée, c'est le meilleur exemple des réécritures d'histoire, ça concerne le ministère de Jésus-Christ.
We have the four gospels named after alleged disciples. We don't know who really wrote the four gospels, but they have the names of evangelists attached to them. They are all histories of Jesus' ministry, but they're not satisfactory histories. They contradict each other.
Et donc, ce meilleur exemple, ce sont les quatre évangiles, écrits par des disciples qui maintenant appartiennent un peu à la légende. On ne sait pas vraiment qui, de qui il s'agit, mais nous avons leurs noms qui sont attachés à ces documents et qui, en fait, représentent une histoire du ministère de Jésus-Christ et de son passage sur Terre. Et ces histoires, en fait, en tant que documents historiques, ne sont pas satisfaisants puisqu'ils se contredisent.
I think, especially of the Gospel of John, very beloved of evangelical Christians because it places evangelical Christianity at the absolute center of the cosmos.
Oui. Et je pense notamment à l'évangile selon Saint Jean qui place le christianisme au centre absolu du cosmos.
Jesus, in the Gospel of John, puts into the mouth of Jesus the famous words, I am the way, the truth, and the light. You cannot know the Father except through me.
Et donc, notamment, Jean place dans les paroles de Jésus ces mots très célèbres. Je suis la voie, la vérité et la lumière. Vous ne pouvez connaître le Père à pas autrement que par moi, qu'à travers moi.
But if we read the entire Gospel of John, we encounter its dark side. It's very anti-Semitic. It places the blame for the death of Jesus on the heads of the Jewish people.
Mais si on lit l'intégralité de l'évangile, on en voit véritablement le côté obscur. C'est notamment extrêmement antisémite, puisque il fait porter le blâme de la mort de Jésus au peuple juif.
It's absurd to ascribe crucifixion to the Jews, because that was exclusively a Roman method of execution. So, as history, the Gospel of John, in fact, all four Gospels, are very unsatisfactory.
Mais c'est absolument totalement absurde d'attribuer la crucifixion au peuple juif, puisque c'était une méthode qui était strictement d'exécution, qui était strictement romaine, et donc cet évangile et même les quatre, en tant que documents historiques, sont extrêmement insatisfaisants.
Each of the Gospels was designed to appeal to a different audience, and in the Gospel of John, which is intended for not the church in Jerusalem, but for the Gentile church, into the mouth of Jesus is put the notorious verse speaking to the Jews, you are of the devil, you are the children of the devil.
Et ce qu'il faut voir, c'est que ces différents évangiles étaient plus ou moins ciblés pour séduire des publics différents. Par exemple, l'évangile selon saint Jean n'était pas ciblé pour l'église de Jérusalem, mais plutôt pour l'église qui appartenait, donc constituée des gentils. Et c'est pour cela que dans la bouche de Jésus, il met ses phrases célèbres en parlant au peuple juif, vous êtes les enfants du diable.
Donc, à mon avis, ce n'est pas l'histoire, c'est seulement théologie. Oui, c'est tout.
Sur cette différence entre théologie et réécriture de l'histoire, quelque chose à dire?
Oui, enfin, c'est évident que ce texte a été écrit. C'est un texte de témoignage. Ce n'est pas un texte révélé, comme le Coran ou... les mandalas du Rig Veda, qui sont des cognitions, on appelle les cognitions védiques, c'est-à-dire des trucs directement révélés du divin. Là, on est dans le témoignage, et le témoignage, c'est comme tous les copistes qu'on réécrit, on ne sait pas très bien à quel moment les couches ont été changées pour l'intérêt de l'Église à un moment donné. Il y a plein d'évangiles apocryphes qui sont totalement différents. Vous avez l'évangile de Thomas, par exemple, qui n'a rien à voir avec les autres, avec des logions qui sont des enseignements plus... par exemple, beaucoup plus proche de ce que peuvent être les enseignements védiques ou bien taoïstes. Et donc, on ne sait pas très bien à quel moment l'Église a décidé que ces évangiles-là, sur les quatre canoniques, seraient la référence. Et évidemment, ils sont réécrits. On dirait qu'ils ne sont pas contemporains à Jésus. Et ensuite, ils sont réécrits dans l'intérêt d'un mouvement qui est en train de se constituer et de prendre le pouvoir. Tout simplement, c'est l'Église romaine, c'est bien établi sur les ruines de Rome. Donc, effectivement, on ne peut pas donner le moindre crédit à ces évangiles-là. Sauf que de temps en temps, on perçoit des enseignements qu'on retrouve après dans les autres. Mais évidemment, c'est historiquement très, très, très... déjà, c'est... Tout à l'heure, Stéphane a dit que je m'étais penché sur la période de la Révolution. Alors là, on va être dans l'histoire pure. Je n'ai pas trouvé un seul historien qui soit d'accord avec l'autre. Bon, il y a deux siècles, hein. Il n'y a pas 20 siècles, il y en a deux. On est soit pro-jacobin, soit pro-royaliste. Il n'y a rien entre les deux. C'est-à-dire que soit on célèbre la Révolution comme la victoire des Lumières et la plus grande chose arrivée au pays, soit on déteste on pense que la Révolution est la plus mauvaise chose arrivée au pays. Et donc, déjà, à deux siècles, sur l'histoire, les gens ne sont pas d'accord. Pas d'accord sur le nombre de morts, pas d'accord sur les batailles, pas d'accord sur les enjeux, d'accord sur rien. Alors, comment voulez-vous que des évangiles écrits 70 ans après, ou 60, 50, 70 ans après la mort du Christ aient une valeur historique? C'est absolument impossible. De même que la Bible, tout à l'heure je disais que la Bible, c'est une tentative de réécriture d'un peuple qui justifie sa propre évolution, enfin, sa propre démarche. Donc évidemment, c'est au service de quelque chose. Et toujours l'histoire est au service de quelque chose. Donc, a fortiori dans les religions, quand on n'est pas dans les textes révélés, c'est la différence avec le Coran. Le Coran est un texte soi-disant dicté par l'archange Gabriel, et donc c'est tout à fait différent. On ne peut pas critiquer le texte. Je prends par exemple le Tao aussi. Le Tao, c'est un texte qui n'est pas historique, qui sont juste des strophes souvent très contradictoires l'une avec l'autre. Donc, ce qui est intéressant pour moi au niveau des religions, c'est d'avoir des textes sur lesquels on puisse réfléchir soit personnellement, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas l'objet d'une interprétation, comme le sont les évangiles, à mon avis, c'est une interprétation de l'Église. Et je pense qu'il faut toujours revenir au texte pur.
Oui, je voudrais éviter, enfin je crois qu'il serait bon d'éviter dans la suite de ce débat, que ça soit trop centré sur le judéo-christianisme. Cette remarque faite, le point sur lequel je voudrais insister, parce que là ça nous introduit à l'avenir et à la science-fiction, c'est la très longue durée dans laquelle s'inscrivent les religions. Et durée qui dépasse même la durée de vie de ces sujets collectifs. Dans le christianisme, alors je tombe dans le travers, dans le christianisme et d'ailleurs dans le judaïsme, on trouve des traces très évidentes de religions ou de cultes beaucoup plus anciens, égyptiens notamment. Une certaine conception de la vie après la vie, une conception du salut assuré par un sacrifice qui sont retranscrites au travers de plusieurs cultures et qui nous sont parvenues. Donc, ça, des éléments fondamentaux de notre culture ont probablement 5 ou 6 000 ans d'existence. Et ça se situe dans le temps très long. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que les religions sont loin d'être terminées, sous une forme ou sous une autre, mais il y a de fortes chances pour qu'elle perdure dans l'avenir que j'espère très long qui s'ouvre à nous. Alors, un aspect intéressant, c'est ça a été en quelque sorte des tentatives avortées pour créer des religions sur une base scientifique, certains diront pseudo-scientifique. J'en proposerai comme élément de réflexion deux exemples. À partir du marxisme, je dis bien à partir, une espèce de religion humaine a entrepris de se constituer avec ses rituels, ses processions. Enfin, tout ça a été très bien détaillé par des historiens et par des philosophes, donc je ne m'appesantirai pas. C'est-à-dire que, la dimension sociologique et économique du travail de Marx s'est trouvé mise de côté au profit d'un culte des héros et d'un certain culte de la personnalité. Il y a un autre exemple qui est tout aussi intéressant, c'est que c'est celui d'un homme qui a refusé de se trouver au départ d'une religion, s'il s'agit de Sigmund Freud. Le projet du marxisme, c'est de transformer l'homme. D'une certaine manière, le projet de la psychanalyse, c'est aussi de transformer l'homme à partir d'un travail individuel. Et dans l'environnement immédiat de Freud, sans qu'on puisse vraiment parler de religion, mais enfin, il y avait, puis on le retrouve chez Jung, qui a été longtemps un commensal, un élève, un disciple de Freud, il y a eu l'idée, le projet de constituer une espèce de religion laïque fondée sur l'approche de l'inconscient. Et Freud s'y est absolument et énergiquement opposé, et en ce sens, il a réussi. Donc, dans une période assez récente, nous avons vu, enfin, les 200 dernières années, les 150 dernières années, nous avons vu deux germes qui auraient pu, qui ne sont pas tout à fait terminés, donner naissance à des religions et qui ne l'ont pas fait, dans un cas à la suite d'un échec, que vous savez, et dans l'autre cas à la suite du refus fondamental du fondateur. Alors, en ce qui concerne la science-fiction, il y a le cas très compliqué d'un personnage, d'un écrivain très important sur lequel je travaille en ce moment, qui est Philip K. Dick. Quel est le rapport de Philip K. Dick avec la théologie, avec la religion? Il y a sa relation très bizarre avec l'évêque épiscopalien, qui est un personnage très singulier, Pike. Bon, je reviendrai vous en parler dans 2 ou 3 ans quand j'aurai fini mon travail actuel.
I think the examples of Marx and Freud and Jung are very useful and very provocative. À mon avis, they are not working in the post-Enlightenment scientific tradition. I look at the claims of Marx, and while they might have metaphoric validity, I look at the claims of Freud, and I think I understand what he's getting at the level of myth, but they are by no means science. Ils ne sont pas scientifiques.
Je pense que les exemples de Marx, Freud et Jung sont très utiles et un peu provocateurs. Et je pense que la raison pour laquelle ils ne fonctionnent pas dans une civilisation qui a connu les Lumières et qui connaît donc maintenant une tradition scientifique, c'est parce que bon, les travaux de... Je vois en quoi les thèses de Marx peuvent avoir une forme de validité métaphorique. Je vois un petit peu ce qu'essaie de cerner et d'atteindre Freud, mais ça ne marche pas parce qu'en aucune manière ce ne s'est fondé sur de la véritable science.
Science puts a premium on skepticism, self-doubt and experimental evidence. The projects of Marx and Freud suggest no experiments. They cannot be validated or in the epistemology of Karl Popper. They cannot be refuted. They cannot be falsified. And therefore, for me, they are outside the province of scientific discourse.
Et la raison aussi pour laquelle je pense ça, c'est parce que la science met une emphase fondamentale sur le scepticisme et sur le doute et sur la preuve expérimentale. C'est au centre de la méthode scientifique. Et les thèses de Marx et de Freud ne se fondent aucunement sur des expériences, et donc on ne peut pas les valider au sens épistémologique défini par Karl Popper. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les réfuter, on ne peut pas prouver que c'est faux. Donc pour cette raison, tout simplement, pour moi, ça se situe en dehors du champ du domaine de la science.
C'est tout.
Ouais, si je peux intervenir là-dessus, Mr. Moreau, c'est quand même, en ce qui concerne les deux d'ailleurs, que j'ai un peu fréquenté, dans l'œuvre de Marx, par exemple, il y a deux dimensions très différentes. L'une sur laquelle je vous suis entièrement, qui est presque mystique, l'idée du sens de l'histoire, où est celle de la victimisation du prolétariat dont la victoire finale assurera le salut de l'humanité. C'est, contrairement au désir profond de Marx, mais enfin c'est quand même bien ce qu'il a dit, à quelque chose qui est d'origine profondément religieuse. C'est une transcription du christianisme sous une forme vaguement matérialiste. Cela étant, il ne faut pas oublier, et là il y a une dimension scientifique de l'œuvre de Marx, c'est un des économistes et sociologues importants de son temps, qu'il faut resituer dans son contexte, qui est extrêmement important, et qui a fait des travaux de l'ordre de l'économie et de la sociologie, même si c'est bien normal, ces catégories ne nous sont plus tout à fait adaptées, enfin ne nous paraissent plus tout à fait convenables. Mais là, il y a quand même un véritable effort scientifique et une véritable dimension scientifique. Il travaille sur des statistiques, il étudie la presse, et en particulier la presse économique et financière de son temps, qui était ce qu'elle était, et il essaye d'en tirer des raisonnements qui ne sont pas tous invalides. Il y a une dimension prospective dans l'œuvre de Marx, les expériences en ce qui concerne l'humanité entière sont assez difficiles à répéter, mais enfin qui sont toujours intéressantes, enfin respectables. Donc il faut bien distinguer la part, je dirais, philosophico-mystique de l'œuvre de Marx de son effort proprement scientifique. Dans le cas de Freud, c'est peut-être encore plus compliqué, parce que Freud ouvre à une approche scientifique l'observation d'une forme de l'inconscient, disons, pour appeler les choses par leur nom, mais de l'inconscient au travers du langage. Bon. Alors ensuite, il lui-même et un certain nombre de ses successeurs en tirent une métapsychologie. Mais il ne faut pas oublier que Freud a dit et répété que la métapsychologie était une sorcière. Et c'est un domaine dans lequel j'ai très indirectement quelque peu enseigné. Et j'ai été toujours un peu effrayé de voir des étudiants qui finissaient par réifier complètement les catégories de la première et la deuxième topique, enfin le ça, le moi et le surmoi par exemple, bon, comme si c'était des objets comme l'estomac, le cœur, enfin et le cerveau. Bon, il s'agit de systèmes métaphoriques qui servent d'aide-mémoire pour ceux qui se livrent à une cure psychanalytique, etc. Alors, Freud n'avait aucune illusion sur l'avenir scientifico-neurologique. Il est très clair là-dessus de son exploration. Mais enfin, donc, il explore le rêve, il explore l'inconscient, il explore le langage, toutes sortes d'usages du langage. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et des neurologues aujourd'hui essayent, avec les moyens de la science, enfin de l'exploration neurologique, en particulier l'IRM ou des trucs de ce genre, essaye de vérifier, enfin de mettre à l'épreuve les concepts de Freud. Il y a un de ces neurologues français, Nakache, qui a publié récemment un essai que personnellement je trouve un peu naïf, mais très sympathique et très très intéressant, il faut le lire, qui s'appelle « Le nouvel inconscient ». Donc il faut bien distinguer, en ce qui concerne ces deux auteurs, la part que je crois scientifique, contrairement à mon ami Moreau, et puis la part d'extrapolation qui peut mener dans toute autre direction.
Je voudrais revenir là-dessus parce que tu as parlé de réification et je pense que c'est exactement le problème des religions, c'est-à-dire qu'à partir de l'expérience intransmissible de quelqu'un qui a exploré quelque chose, qui a franchi une porte quelque part de la perception, ce sont les autres, les générations suivantes, les disciples qui théorisent, créent un système de pensée à partir d'une expérience unique. Et donc, ça élève un système de pensée et donc crée une religion. C'est un corpus de pensée auquel tout le monde doit adhérer, puisque n'ayant pas l'expérience, on est obligé de passer par le système de pensée. Et j'ai l'impression qu'on célèbre la science. C'est festival de science-fiction, donc la science est importante, mais voilà. J'ai l'impression que la science a exactement les mêmes travers. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas d'opposer science et religion. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir les mécanismes qui régissent les êtres humains et comment ils s'emparent des choses. Vous avez des scientifiques qui sont de véritables archevêques maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont une sorte de parole sacrée et que si vous contestez leur parole sacrée, vous êtes voué aux gémonies et vous êtes exclu du système de pensée. Donc c'est une tendance humaine. La tendance humaine, c'est de réifier parce que n'ayant pas l'expérience, on est obligé de se raccrocher à un système de pensée qui a été créé par d'autres. Et ça ne peut pas marcher. Et je pense que le marxisme est l'exemple de ça, quoi. C'est l'exemple type. Alors reparlons de la Révolution française. La Révolution française m'a intéressé pour plein de plans. D'abord, on l'étudie assez mal parce que c'est l'acte fondateur de la République, c'était une vache sacrée et que donc on ne salit pas les vaches sacrées. On n'abîme pas les vaches sacrées, on les défigure pas. Or, il me semble que dans ces trois périodes des trois années de la Convention, de 1782 à 1794, on a tout ça qui se met en germe. Hein, on a la fin d'un monde nouveau et la fin d'un monde ancien, et sur les cendres d'un monde ancien se recrée un monde qui reprend exactement les mêmes mécanismes. Qu'est-ce que fait Robespierre? Il crée une nouvelle religion. Il crée la religion de l'être. Notre pays, c'est les droits de l'homme et tout, on oublie la première phrase qui est sous l'égide de l'être. Donc il s'agit bien de recréer un système de pensée auquel tout le monde adhère, et comme personne ne peut adhérer, évidemment, personne n'est aussi pur que le souhaite Robespierre, et bien il coupe les têtes, tout ce qui dépasse, il coupe les têtes. Donc voilà, et j'ai l'impression que la science prend exactement les mêmes travers, quoi. C'est-à-dire, on est promet des lendemains qui chantent, des paradis, paradis biotechnologiques, paradis technologiques tout court, et ce sont juste des systèmes de pensée qui nous éloignent de ce que nous sommes réellement, à mon avis. Et j'ai l'impression que l'exploration, elle devrait toujours, toujours tourner vers l'intérieur, parce qu'aucun de nous, aucun de nous n'est pareil à l'autre. Chacun de nous est une expérience unique. Ça, c'est ce que essaient de faire les auteurs. C'est-à-dire, cette expérience unique, la transmettre par les mots, c'est quelque chose de très, très difficile. Mais je pense que ça, c'est le rôle de l'auteur, justement, de science-fiction, ou bien d'imaginaire, ou bien de tout ce que vous voulez. C'est de faire une exploration libre avec les mots et de transmettre cette expérience à son lecteur.
Bon. Oui, non, non, là, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus, camarade Bordage. Parce que la science est probablement quelque chose de très récent, hein, dans son acception moderne. C'est probablement la seule institution collective et durable qui passe son temps à autodétruire ses affirmations. Il est tout à fait exact qu'on parle d'ailleurs de façon plutôt journalistique que sérieuse de dogmes, par exemple concernant la génétique, on a parlé de tel ou tel dogme génétique, puis 10 ans après, ils tombaient par terre. La science se soumet...
Exactement comme il y avait des conciles qui démolissaient les autres conciles, c'est principe de base humain depuis la nuit des temps.
Le sujet collectif est l'institution très particulière issue de l'Empire romain qu'est la religion catholique se maintenait. Ensuite, il démolissait pas tellement, il s'est plutôt agi de couches superposées, l'invention du purgatoire, toutes sortes de choses, enfin, c'est pas le lieu ici d'en parler. Mais le travail de la science, c'est immense. Ce monde constitué finalement d'une toute petite partie de l'humanité, le travail de la science consiste à continuellement se remettre en question. Alors il arrive que des vieilles théories et de vieux théoriciens s'accrochent autant qu'ils peuvent, mais ça finit toujours par sauter. Les révolutions scientifiques, en tout cas les révolutions observationnelles et expérimentales simplement de ces 20 dernières années ont été colossales. Prenez par exemple l'accélération de l'expansion de l'univers qui a à peu près 20 ans, enfin dont la première indication remonte à peu près 20 ans, ça a été un bouleversement pour absolument tout le monde. Il n'y a pas, en dehors du souci de conservation de la méthode, et encore la méthode, elle est variée, elle est nombreuse, mais en dehors du souci de conservation de la méthode et justement du libre examen des résultats, il n'y a pas d'imposition de quelques dogmes continus que ce soit, et chaque fois qu'il y en a, ils sont détruits au bout d'un certain temps. J'ai eu il y a quelques années un débat avec Hubert Reeves, dont le nom vous dit probablement quelque chose, et je disais à Reeves, uniquement pour le taquiner, que la théorie du Big Bang, elle serait comme toutes les théories, un jour ou l'autre, elle serait remplacée par une autre. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle le soit véritablement, mais enfin, il y a des théories comme celle du choc entre deux Brahms, qui est issue de la théorie des cordes, et on est presque dans la métaphysique, qui donne de l'origine de l'univers une expression tout à fait différente de celle du Big Bang qu'on professait à l'époque. C'était, de ma part, de l'ironie de dire ça. Mais aucune théorie scientifique n'est et ne se pose comme définitive. Alors, elle peut être, un scientifique m'a rétorqué une fois, oui, mais on sait que la Terre est ronde, elle a passé ses êtres ronds. Oui, mais je lui dis, c'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que c'est pas une sphère parfaite, c'est qu'il y a beaucoup d'irrégularités magnétiques, de surface, gravitationnelles, et c'est ça qui est important. Voilà, bon.
I think there are severe limits to the argument that science is simply religion by other means.
Je pense qu'il y a des limites sévères à l'argument qui dirait que la science n'est qu'une religion par d'autres moyens.
And also the argument that science is simply a narrative that is periodically revised out of existence and replaced by a completely different narrative.
Ainsi qu'à la vision qui présente la science comme simplement une histoire, une narration que l'on révise périodiquement et que l'on remplace de temps en temps par quelque chose d'entièrement différent.
I am writing a novel about Charles Darwin and the coming of the Darwinian worldview. It seems to me that the success of Darwinism, its provisional truth, if you will, it's certainly its provisional insight into the interconnectedness of all life, is a function not of Darwin being a priest.
J'écris un roman en ce moment sur Charles Darwin et puis l'avènement de la vision du monde darwinienne. Et je pense que le succès du darwinisme, ou en tout cas du succès de sa vérité provisoire, ou du moins de ces premiers éléments de réflexion qui ont été provisoires sur l'interconnexion de toutes les formes de vie, ce n'est pas lié au fait que Darwin était un prêtre.
There is, to be sure, a political dimension to science. And Darwin went out of his way to make sure his version of natural selection took precedence over Alfred Russel Wallace's. But ultimately, he did not have to oppress his enemies. He didn't have to cut off anybody's head. It seems to have succeeded because he got it right. It's almost certainly the case that all life, everything that ever lived on this planet, everything that's alive now, and everything that ever will live is intimately interconnected to every other species. A very radical idea, and flies in the face of the conventional wisdom of separate acts of creation for every species.
Alors effectivement, bien sûr, il y a une dimension politique à toute entreprise scientifique, et c'est vrai que Charles Darwin s'est donné beaucoup de mal pour que sa version de la sélection naturelle domine sur celle d'Alfred Russel Wallace, mais au bout du compte, il n'a pas eu besoin d'opprimer qui que ce soit, il n'a pas eu besoin de décapiter qui que ce soit pour faire triompher sa vision du monde. Cette vision a triomphé, certainement, probablement, tout simplement parce qu'il a bien cerné les choses. Et parce que c'est effectivement très certainement le cas que tout ce qui a vécu sur la planète, tout ce qui vivra, tout ce qui vit en ce moment est interconnecté. Et effectivement, c'est donc une opinion radicale qui complètement à l'encontre de l'idée comme quoi il y avait des actes de création séparés pour chaque espèce.
Attends, il y a un truc que je n'ai pas compris, là peut-être j'ai mal entendu, mais il n'y a pas eu de conflit entre Darwin et Wallace. Darwin a rendu il a prévenu, enfin ils se sont prévenus mutuellement, et quand Darwin a découvert que Wallace avait eu les mêmes idées, il a rendu, dès la première édition de L'Origine des Espèces, un hommage appuyé à Wallace. Il n'y a pas eu de conflit, là.
Present that very accurately. Darwin's friends arranged for Wallace's paper and Darwin's paper to be read at the same meeting of a scientific society, but it was partly in the name of Darwin's preeminence and removing from Darwin's life any need to collaborate with Wallace.
Oui, j'ai peut-être pas présenté ça de façon très juste. Disons que les amis de Darwin se sont efforcés faire en sorte que les articles de Darwin et les articles de Wallace soient présentés au même moment de façon à, mettons, asseoir la prééminence de Darwin et enlever pour lui le besoin de collaborer avec qui que ce soit.
Méfiez-vous des prosélytes.
The other example, of course, is the accomplishments of Albert Einstein. And I think it's important to realize he didn't overthrow Newtonianism. He didn't replace Newtonianism with a completely different picture of the universe. Be more accurate to say that he contextualized Newton. He provided the insight that Newton's laws are a special case of general relativity. So in this sense, I would say science is not a religion, but a community in which people build on each other's insights.
Et alors, l'autre exemple, c'est la vision d'Albert Einstein. Je pense que c'est important de comprendre qu'il n'a pas renversé la vision newtonienne du monde. Il ne l'a pas remplacé par une image entièrement différente, une description entièrement différente de l'univers. Il serait plus juste de dire qu'il l'a contextualisé, la vision newtonienne de la physique. Il a simplement montré en un sens que les lois de Newton étaient un cas particulier de la réalité, la relativité générale. Et en cela, je pense que la science n'est pas une religion, c'est plutôt une communauté d'esprit qui construit sur les théories les uns des autres.
Excuse-moi, Gérard. Le darwinisme est pour moi l'exemple parfait du dogme scientifique, au dehors duquel il n'y a pas de salut. L'autre alternative étant le créationnisme crétin de certaines parties de la population. Et pour moi, il y a des alternatives à ça. À ces deux trucs-là, il y a des alternatives. Parce que si c'est, les deux sont aussi désespérantes l'une que l'autre, quoi. Et le darwinisme et le créationnisme crétin. Voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est de trouver d'autres voies. La pensée matérialiste ne m'intéresse absolument pas parce que je pense qu'elle conduit tout droit dans la matière, c'est-à-dire dans des impasses. Donc, ça me semble intéressant de se décoller de ces systèmes de pensée qui soient à la fois scientifico-religieux. Parce que pour moi, il y a quand même des relations très, très importantes entre les deux. Dans le fonctionnement, je ne dis pas que l'un remplace l'autre, mais dans le fonctionnement, dans la façon dont on s'en empare. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer d'autres voies. C'est ça, mon
oui,
auteur.
Je peux oui. Non, mais attends, on ne peut pas considérer le darwinisme...
Rapide, Gérard, parce qu'on arrive au terme...
Bon, d'accord, mais il faut quand même que je relève le point. On ne peut pas du tout considérer le darwinisme comme un dogme, et le mettre sur le même champ que le créationnisme ou que le dessin intelligent même. Non, attends...
Quelle priorité pourquoi?
Pourquoi? Est-ce que je peux m'exprimer?
Vas-y.
Parce que dans la foulée du darwinisme, d'immenses champs de science qui représentent plusieurs dizaines de disciplines aujourd'hui se sont constitués. Bon, au début du XXe siècle, on a appelé ça, je crois que c'est au début du XXe siècle, le néo-darwinisme. Mais c'est un immense champ de science dont tous les aspects, même s'il reste des lacunes, se confortent les uns les autres. Bon, ça a absorbé la théorie mendélienne et puis tous les travaux génétiques actuels. Donc, ce n'est pas une idéologie. C'est un ensemble colossal. Il faudrait la bibliothèque qui... on pourrait remplir cette pièce avec les travaux scientifiques qui ont été publiés dans ce domaine, bon, et qui montrent l'unité de la vie, qui montrent la façon dont elle a évolué de façon extraordinairement précise, et ça se précise encore chaque année. Donc là, on est dans l'observation et l'expérimentation.
L'observation disait avant le 18e siècle que le plus lourd colère ne pouvait pas voler. L'observation
Non, l'observation ne disait pas ça. Elle n'a jamais dit ça. Ça, c'est simplement faux. L'observation disait parfaitement que la fumée, et en particulier la vapeur d'eau qui venait d'un plus lourd colère, pouvait parfaitement voler. Ceci à tel point que les frères Montgolfier croyaient nécessaire à leur foyer d'ajouter de l'eau, ce qui est évidemment une erreur fondamentale, d'ajouter de l'eau pour qu'il y ait beaucoup de vapeur d'eau qui monte. Non, ça, c'est faut voir l'histoire de l'épistémologie et l'histoire des sciences de façon précise. Ce n'est un certain nombre d'imbéciles, généralement des journalistes, ont dit le plus lourd, très tardivement, vers la fin du 19e siècle, le plus lourd que l'air ne peut pas voler. Et la controverse ne portait pas là-dessus. Elle portait sur des aéronefs avec des gaz légers, l'hydrogène, beaucoup plus tard l'hélium, et des aéronefs façon Robur le Conquérant avec des hélices ou des ailes plus lourds que l'air. Mais attention, non, il ne faut pas dire n'importe quoi.
Ce que je veux dire, c'est que souvent, une vérité à une époque n'est plus une vérité à une autre, et y compris sur le plan pseudo-scientifique, c'est-à-dire sur le plan de la rationalité, parce que la perspective change, les perspectives changent en permanence. Et le truc, c'est qu'on est toujours tenté de les enfermer dans des systèmes. Et à un moment, ça va plus correspondre parce qu'on va être obligé de se raccrocher à ce système et donc interdire une vision différente. C'est déplacer les points de vue qui est intéressant.
Oui, mais le travail de la science, c'est précisément de changer constamment de point de vue.
Bon, on va quand même laisser parler James.
Est-ce que nous avons 10 heures peut-être pour cette conversation?
Alors, on va juste avant de finir, voilà, juste avant de finir, on va quand même passer la parole au public parce que c'est important de pouvoir poser quelques questions quand les invités sont là. Je tiens quand même à préciser que je ne savais pas trop où on irait dans ce débat. C'est toujours assez amusant de voir jusqu'où on va dans ces cas-là. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, bah. Enfin, ce serait bien.
Bonjour. Que pensez-vous de ce phénomène relativement récent qui est l'apparition d'une histoire du futur liée à la science-fiction et qui comporte des éléments religieux dans ses buts, comme l'immortalité, qui est cette invention de la singularité?
Oui, alors bon, ceux qui ont lu quelques-unes de mes préfaces, c'est-à-dire peut-être très peu d'assistants à cette table ronde, savent ce que je pense de la singularité. Bon, s'il y a un jour une intelligence artificielle, peut-être que il y aura une rupture très fondamentale qui se produira. Dans l'état actuel des choses, je ne crois pas à une telle émergence. Mais je dis bien, je ne crois pas. Enfin, disons, tout ce que je sais, j'ai pas mal étudié la question, pour les besoins littéraires, entre autres, me conduit à penser que c'est pas demain la veille.
Ouais, une question pour la demoiselle.
Merci. Je reviens sur ce qu'a dit Monsieur Bordage. Donc, l'opposition semble-t-il irréductible entre créationnisme et darwinisme. Alors, quelles hypothèses alternatives, quelles autres démarches de réponse et de réflexion proposées? Merci.
Je ne me vais pas dans la merde. Alors, ça, je pense que c'est l'objet de l'exploration et de l'expérimentation individuelle. Justement, voulant échapper à tout système de pensée, il n'y peut y avoir que des réponses individuelles profondes à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire, c'est éloigner tout, essayer de sortir de tout système de pensée pour plonger dans sa propre réalité. Ça me semble être la démarche la plus intéressante pour l'être humain pour l'instant, parce que les grands machins collectifs, les ismes, freudisme, marxisme, si le but du bonheur, le but de l'homme, c'est le bonheur sur Terre, on peut considérer qu'on a quand même relativement échoué jusqu'à présent, que ni les religions ni les sciences n'ont apporté cette réponse à l'être humain, et que donc il y a forcément une autre façon d'essayer d'appréhender ces choses-là. On en a parlé hier avec Jodorowsky, qui est d'aller dans sa propre réalité intérieure. Alors après, je ne sais pas quelle réponse vous allez trouver, et je ne veux surtout pas que ce soit des réponses dogmatiques, parce que ce que vous allez trouver, ça ne va peut-être pas être ce que vont trouver les autres. Et c'est ça l'intérêt, à mon avis, de nos différences à nous, c'est que nous avons probablement une réponse, un rapport à l'univers qui est complètement différent selon les uns ou les autres. Et c'est ce rapport à l'univers, cette subjectivité suprême, parce que moi je crois beaucoup à la subjectivité, l'objectivité ne m'intéresse pas, encore une fois la pensée matérialiste ne m'intéresse pas en tant que telle, je préfère explorer autre chose, peut-être que j'ai tort, je m'en fous. De toute façon, je suis là pour essayer de trouver des choses, si moi je ne fais pas ça, qui le fera? Donc voilà. C'est ce que j'aimerais trouver, c'est ça, c'est ce que je recherche, et l'écriture va probablement dedans, parce que l'écriture c'est un fil d'Ariane dans les labyrinthes très profonds. C'est de trouver ma subjectivité, mon rapport au monde à moi, voilà. Et je ne veux pas l'imposer à personne, parce que ça deviendrait une religion et je vous demanderai du pognon et vous seriez pas content, hein. Donc ça m'intéresse pas.
Je serais curieux, enfin je pense que James aurait peut-être quelque chose à dire sur la question, il me semble. C'est le genre de choses qui pourrait... La question de la personne sur...
Question de intelligent design.
Ouais.
Before we adjourn, you should all read the Book of Mormon, which is the best example I can think of religion rewriting history. It's depending on your point of view, it's either... the true account of the Jewish people coming on barges to the New World and settling it, or it's a work of science fiction.
Je pense que vous devriez tous lire le livre de Mormon, qui pour moi est le meilleur exemple d'une religion qui réécrit l'histoire. En fonction de votre point de vue, soit effectivement c'est le véritable compte-rendu du peuple juif qui est arrivé en barge dans le Nouveau Monde et qui a donc constitué les premières installations et les premiers peuplements là-bas, ou alors c'est de la science-fiction.
Mais malheureusement, la transcription sur les plaques d'or a été perdue.
Ouais. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je ne sais pas à quel sujet je vais le rendre. Et encore une fois, tout d'abord, je tiens à remercier les trois invités qui nous ont tenu tous ces propos passionnants. Ainsi que notre ami Lionel Davous qui a assuré comme d'habitude une traduction tout à fait parfaite. Je vous invite donc à aller à l'espace librairie pour les dédicaces de tous ces auteurs, y compris de notre traducteur-auteur. Et voilà, puis je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'Utopiale.